Mitzrayim, c'est l'archétype des galouillotes. C'est la racine de tous les galouillotes. Le fait est que le clan d'Israël, il est caractérisé par quelque chose qui, je pense, qui n'a jamais existé ailleurs. C'est que le clan d'Israël, il est en galoute avant même d'être un peuple. D'une part, et deuxièmement, il est né dans le galoute. Il est né, et le passouk dit même qu'il est devenu un peuple, mais bon, nous on sait que c'est seulement il est un embryon de peuple, parce que il ne sera un peuple qu'au pied du Sinaï, donc il n'est pas vraiment né, il n'est pas vraiment devenu un peuple en Mitzrayim, mais bon, c'était pas très loin. C'est une première chose. Deuxièmement, donc le galout fait partie des fondations du clan d'Israël, si on peut parler comme ça. J'avais proposé de dire que le galout, c'était d'une certaine manière la gestation du clan d'Israël. Alors, il y a disons comme ça, il y a le galout qu'on pourrait comparer à un col, mais il y a aussi un bas de col. Et le bas de col, c'est que il existe un chiboud, il existe un esclavage d'Ebné Israël par rapport au sonné Israël, aux ennemis d'Israël de l'intérieur. Ils sont à l'intérieur du Mahané, ils sont à l'intérieur du camp. Marqué dans les psukim, c'est Uredu bachem, sonechem, bachem ou mikem. C'est-à-dire, vos ennemis vont vous exploiter, vous réduire en esclavage. C'est les gens de chez vous qui vont s'attaquer à vous. Ça veut dire, il y a le soné mibachutz. Il y a le soné mibifnim, il y a l'ennemi extérieur et l'ennemi intérieur. C'est la même structure que les Yetzirah extérieur et les Yetzirah intérieur. La torpeur qui a frappé Avraham Avinu dans Brit Ben Aptarim, c'est dans Brit Ben Aptarim qu'Avraham Avinu a reçu cette annonce que puisqu'il avait choisi pour son peuple l'exil, alors que les Bnei Israël seraient exilés, ils seraient sur une terre qui ne sera pas la leur, et ils seraient réduits en esclavage, qu'ils allaient souffrir, etc. Ça porte a priori sur tous les galouillots ultérieurs aussi. Mais ces autres galouillots, d'une certaine façon, sont inclus. Les exils sont inclus dans celui de Mitzrayim. Mais le problème, c'est que nous ne savons pas. C'est pas encore. Quelle est la racine du chiboud, du inouï, chez les sonim de l'intérieur? L'Égypte est la racine des autres, des galouillotes chez les autres peuples, que nous sommes en galoute chez d'autres peuples. Mais où est la racine de ce Mikem ou Bachem, Bachem et Mikem, de ce chiboud-là? Alors en réalité, bien sûr, tout est toujours dans la Torah. Mais là, en l'occurrence, ce sont les Achmei Ahemet, c'est-à-dire c'est plutôt les Mekoubalim qui donnent la solution et qui nous disent que la racine de ce galout-là, les ennemis de l'intérieur, Les ennemis de l'intérieur sont les enfants du Erevrav. Mais ils ne sont pas les enfants biologiques du Erevrav. Ce n'est pas les enfants des gens qui composaient le Erevrav obligatoirement. Ce qui se passe, c'est que du fait même qu'il y a eu à l'intérieur du clan d'Israël, avec eux, à côté d'eux, il y avait ce Erevrav. C'est ça qui a entraîné la possibilité pour que des éléments même du clan Israël soient Meshabdim, se réduisent en esclavage et fassent souffrir le clan Israël. C'est-à-dire que les aspects négatifs du Erevrav ont entraîné ce chiboud intérieur par rapport à un ennemi intérieur, en fait. D'où on a le chidouche, en fait, que au sein du processus de la sortie d'Égypte est née une sorte d'exil qui n'existait pas dans la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, elle englobe toutes les autres galouyotes. Galouyotes du type habituel, c'est-à-dire où on est en galoute parmi les Omot Haolam. Mais ce type de galoute, si vous préférez, intérieur, le Bachem, Mikem Bachem, est né. Pourquoi? Parce que le Erevrav est né au moment de la sortie d'Égypte. Et alors là, du coup, on a un énorme problème. Problème, c'est que dans les Nevi'im, c'est marqué plusieurs fois que la libération, la Géoula finale, celle de la fin du galout dans lequel nous sommes, celle de la fin de l'histoire, elle sera sur le modèle de la sortie d'Égypte. Je me dis que exactement comme ça s'est passé au moment de la sortie d'Égypte, je ferai des niflaot au moment de la libération finale. Même marqué en plus que Hachem a fait au moment de la sortie d'Égypte, il a fait des choses qui rappellent. Ça rappelle le futur, mais ça rappelle la finale, la Géoula finale. Comment c'est possible que ce qui sert de modèle, d'exemple pour la Géoula Atida, pour la Géoula finale, contienne une nouvelle sorte de galoute? Le modèle contient une sorte de galoute. Comment c'est possible? Ça ne peut pas être un modèle. Ce qu'on veut appliquer, c'est censé être le modèle de la Géoula finale, mais la Géoula finale, elle n'a pas de galoute après elle. Alors comment ça peut être le modèle? En fait, quand on pose cette question, on est amené à faire une remarque sur le détail du processus de la Géoula au moment de la sortie d'Égypte. Qui? si elle se mise sur le truc. Oui, c'est bon. Pas sûr que ça va marcher, mais admite, voilà, c'est bon. Voilà. Donc, comment est-ce que c'est possible? C'est qu'en réalité, dans la Gemara, dans la Gemara dans Brachot, elle dit que le sauvetage, concrètement, si on zoome sur la sortie d'Égypte, alors on s'aperçoit que cette sortie d'Égypte, elle a eu lieu en deux temps. La Géoula elle-même, la libération elle-même, elle date de quand? C'est quand le moment de la Géoula? Quand est-ce que Paro décide, je cède? C'est le soir. C'est avec Makat Bechorot. Quand Hachem frappe avec Makat Bechorot, Paro, il met les pouces. Ok. Je cède. Et à ce moment-là, vous connaissez, il va chercher Moshe, auquel il avait dit que si jamais tu me revois, tu mourras. Parole un peu en l'air, hein. Et Moshe s'était un peu caché, mais finalement, alors je ne suis pas sûr qu'il ait trouvé Moshe aussi. Peut-être que Moshe lui avait dit, c'est vrai, je reviens, je ne te reverrai pas. Je ne sais pas si Moshe l'a considéré qu'il avait fait un éder de plus le revoir, et auquel cas il a envoyé quelqu'un, un émissaire. Ou bien si Moshe a compris que moi, je ne prendrai pas l'initiative d'aller chez toi, mais si toi, tu viens chez moi. En tout cas, il est allé chez Moshe et il lui a dit, partez. Alors Moshe, vous connaissez l'affaire, Moshe a dit deux choses. Il a dit d'abord, on ne partira pas tant que tu n'auras pas déclaré, enfin, fait un acte juridique qui libère les nés Israël de la condition d'être tes esclaves. Comme on dit dans la Haggadah, si Hachem ne nous avait pas sortis d'Égypte, alors nous serions encore nous, nos enfants, nos petits-enfants, on serait encore esclaves de Paro. Pourquoi? Parce que si on était parti, on est parti, on est esclave chez Barach, mais il a toujours une condition d'esclave. Donc s'il y a un arrière-arrière-petit-fils de Ramsès en question, ou je ne sais pas qui c'était à ce moment-là, le Paro en question, ben, il pourrait nous dire aujourd'hui, il pourrait nous dire, Rabotai, vous êtes mes esclaves. Bon, il n'aurait pas beaucoup de chance qu'on lui obéisse, mais on serait formellement ses esclaves. On aurait un statut d'esclave. Alariquement, ça pourrait être un peu embêtant. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu a exigé qu'il déclare que les Bnei Israël ne sont plus ses esclaves. Donc ça, c'est la Géoula. Voilà, Nigalou. Et ça, c'est une première chose que Moshe Rabbeinu a dit. Et puis ensuite, Moshe Rabbeinu a dit, bah, on ne va pas partir tout de suite parce qu'on ne va pas partir comme des voleurs en plein milieu de la nuit. Bon, à la vérité, on pourrait arguer, on pourrait faire une remarque sur ce que Moshe Rabbeinu a dit ici. C'est que vous savez bien qu'en vérité, on y voyait comme en plein jour. Bon, cette deuxième partie de la nuit, à partir de Chatzot, on y voit comme en plein jour. Vous savez pourquoi? Vous vous souvenez pourquoi?
Avraham
Avinu a poursuivi, et quand il a fait la guerre pour délivrer Lot, il a changé la nuit en jour pour que Lot ne souffre pas pendant une nuit supplémentaire. Et Hachem lui a dit, tu as changé la nuit en jour pour sauver Lot, Alors moi, je changerai pour tes descendants, je changerai aussi la nuit en jour. Et la nuit en jour que Abraham Avinu a choisi, a changé, c'est la première partie de cette nuit du 14 au 15 Nissan. La première partie de la nuit du 14 au 15. Et à cause de beaucoup a changé en jour la deuxième partie de la nuit, du 14 au 15, c'est la nuit de la sortie d'Égypte. Donc en réalité, quand Moshe Rabbeinu lui dit on ne va pas partir comme des voleurs en pleine nuit, bon, on y voyait assez clair. Mais bon, c'est quand même la nuit, donc on ne part pas, on n'est pas pressé. Paro les presse de partir, mais Moshe dit on n'est pas pressé. Ils ne sont partis, la Yetzia de Mitzray. Elle a eu lieu 2 jours. Donc la sortie d'Égypte, elle s'est déroulée en 2 temps. La Géoula à minuit et quart, et la sortie à 8 heures du matin. C'est 2 temps. Et la question se pose, c'est pourquoi? Pourquoi ça? Pourquoi les séparer? Elles vont ensemble. La Géoula et la Yitzia, c'est la même chose. On n'est pas. La Géoula, ce n'était pas pour qu'on reste Géolim en Égypte, c'était pour qu'on sorte. Pourquoi est-ce qu'on les a séparés? Pardon? Ok, alors on l'a mangé. Ouais. Enfin, ils ont mangé ça sur le pouce, donc. C'est pas à cause du Corban Pessah qu'ils sont restés. Ils sont restés parce qu'ils voulaient partir 2 jours. Alors maintenant, si on regarde précisément, on a dit l'apparition du Erev Rav, elle ne se fait pas avec la Géoula. Qui c'est le Erev Rav? C'est ceux qui se sont joints aux Bnei Israël, quand les Bnei Israël sortaient au moment de la Yetzia. Si vous voulez, le Erev Rav, il existe. Avant, on n'en parlait pas. Il existe comme tel à partir de 8 heures du matin. Jusque-là, il n'y a pas trace du Erev Rav. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Géoula elle-même, elle est pure du Erev Rav, quoi. Dans la Géoula, il n'y a pas de trace du Erev Rav. Or, c'est la Géoula qui va servir de modèle à la Géoula Atida. Ce n'est pas la sortie en tant que telle. Donc, il y a dans la sortie d'Égypte une partie qui peut vraiment servir de modèle à une Géoula pure, c'est-à-dire à une Géoula qui ne soit pas suivie d'un galout. Puisque la source du galout intérieur, c'est le Erev Rav, tant qu'il n'y a pas d'Erev Rav, c'est-à-dire pendant la Géoula, si vous voulez, à minuit et quart, il n'y a pas de problème. La sortie d'Égypte, version Géoula, elle se fait uniquement avec les Bnei Israël, il n'y a pas de trace du Erev Rav. Le matin, il n'y a déjà mélange. Erev Rav, Erev, ça veut dire mélange. Erev Rav, c'est le grand mélange. Alors le problème de ce grand mélange, c'est qu'on ne sait pas exactement ce que c'est que ce grand mélange. On sait qu'il y a un mélange, mais on ne sait pas très bien de quoi il est composé. A priori, on a vécu quelque chose de ce genre-là. En Union soviétique, dans le régime soviétique alors, les Juifs étaient persécutés particulièrement, mais ils étaient les seuls qui, dans certaines circonstances, pouvaient sortir. Les goyim russes, ils ne pouvaient pas sortir. Ils ne pouvaient pas sortir, point barre, ils ne sortent pas. Depuis toujours, ils ont, même avant la guerre, ils ne permettaient pas ça. Staline, il faisait ce qu'il voulait. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, il y a des goyim russes qui ont acheté des passeports juifs. Ils sont sortis en tant que juifs. Et on en a des traces en Israël, des traces dans le monde entier. Et en Israël, ça fait même des problèmes parce que ces braves gens, ils veulent des cimetières à eux, ils veulent des boucheries à eux, ils veulent des trucs à eux. Ils sont des goyim. Ils n'ont jamais dit, à part sur le passeport juif, ils n'ont jamais dit qu'ils étaient juifs. Ils n'ont jamais eu l'intention de se convertir, etc. S'ils pouvaient, ils partiraient bien en Amérique ou ailleurs. Ceux qui restent en Israël, c'est parce qu'ils ne peuvent pas partir en général. Et seulement, ces gens-là font des problèmes. C'est des gens qui sont sortis, ils ont des sorties financées par les Juifs. Les Juifs ont financé la sortie des Juifs de l'URSS, dans laquelle cette sortie était pour beaucoup une sortie de goyim qui sont sortis avec des passeports juifs, mais c'est tout. Alors, si vous voulez, on peut dire qu'il y a eu des gens en Égypte qui ont pensé que bon, c'est un moment pour partir. Peut-être que ça le régime leur plaisait pas tellement et ils ont décidé de partir. Voilà, c'est donc c'est les gens-là. J'ai entendu récemment quelqu'un qui disait, un historien qui disait que peut-être qu'en s'interrogeant, il disait, pour imaginer que c'est une espèce de légion étrangère, comme la légion étrangère en France. C'est-à-dire toutes sortes de mercenaires et autres gens qui se sont proposés d'accompagner les Bnei Israël. Les Israël, ils ne pouvaient pas faire la guerre. Ils n'avaient pas les moyens, ils ne savaient pas faire la guerre. On dit, on va vous protéger. Protéger, ça veut dire on va vivre à vos crochets et officiellement, on va vous protéger. Pardon?
Africain, c'est que ça se soit fait vraiment au dernier moment. C'est justement parce qu'ils se sont
Alors,
initiés. Ça paraît bizarre. Il y a eu
mais pourquoi c'est ils n'avaient pas besoin de passeport.
pas de passeport, mais.
Mais ils ont fait ce qu'il fallait. Le moment où on peut partir, ils partent. La porte s'ouvre, mais alors tu pars quand la porte est ouverte, tu ne peux pas partir quand la porte est fermée.
Débaucher, tout ça, il a pas.
Et quoi? C'est pas qu'il ne l'a pas vu. Bien sûr qu'il les a vus, mais qu'est-ce qu'il pouvait faire? Pour empêcher les gens de sortir d'Égypte? Il est flic égyptien? C'est pas son problème. Par exemple, ouais. C'était pas un grand bénéfice obligatoirement pour les Bnei Israël dans la mesure où, par exemple, on dit que ce sont eux qui ont dit comment il fallait traiter le fameux veau d'or, le taureau là que les Bnei Israël ont fait. Les Bnei Israël, quand ils ont fait ce taureau, ils savaient pas comment on lui donnait du kavod si on veut qu'on puisse lui dire c'est toi qui nous as sortis d'Égypte, c'est toi qui vas nous guider, etc. Il faut savoir comment on l'honore. Ce n'est pas une idole au départ. Ça devient une idole parce que les Bnei Israël ne savent pas comment on faire. Et eux qui étaient. Les Bnei Israël aussi, ils avaient été idolâtres en Égypte. Mais peut-être qu'ils n'étaient pas les spécialistes. Les autres, là, ils y connaissaient mieux. Ils ont proposé. Ils ont dit voilà, il faut danser, il faut chanter, il faut boire. Etc. Autour de lui, c'est ça le kavod qu'il faut donner au taureau en question pour l'honorer. Et ça a donné la débauche autour de ce veau, et on dit que c'est dû essentiellement au Erev Rav. Alors, concrètement, on ne sait pas qui étaient vraiment les gens qui composaient ce Erev Rav, ce mélange. grand mélange. Si c'était des Égyptiens, pourquoi dire que ça s'appelle un grand mélange? Peut-être des gens. Il y avait en Égypte peut-être toutes sortes de gens, pas obligatoirement des Égyptiens, en profiter de sortir aussi. Et on ne sait pas du tout non plus combien ils étaient. C'était 10 000, 100 000. Alors, je crois d'avoir raconté déjà qu'il existe un chazal où des Tanaïm, dont Rabbi Akiva, parlent du nombre de personnes qui composent cette Erevrat. Ce qu'ils disent, c'est très étonnant. Il y a trois Tanaïm, chacun donne sa version. Il y en a un qui dit 1 million 2, l'autre 2 millions 4. Et le troisième, 3 millions 6. Alors, ces chiffres sont vraiment très, 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 très difficiles à comprendre. D'abord, il faut savoir que même à cette époque, pour ce qu'on en sait, parce que j'en sais, disons, il n'y avait pas tellement de monde dans le monde. D'accord? Donc, si le Erev Rav, ça peut être jusqu'à 3 millions 6. Et plus 600 000, on parle que des mâles et la tranche d'âge en question. Ça fait 4 000. Ça, c'est seulement, c'est pas du tout le peuple égyptien, hein, donc ça fait un peuple égyptien de beaucoup de millions. D'après les chiffres que je connais, c'est à peu près, peut-être même plus que la population entière du monde à cette époque-là. Alors, je sais pas, pour ce qu'on en sait. Mais bon, ce qui est intéressant dans ces chiffres, c'est que d'abord, c'est tous des multiples de 600 000. Et le plus faible, c'est 2 fois autant que 600 000. Donc, ils disent en tout cas 2 choses. Ils disent d'abord, il y avait plus de Erev Rav que de Bnei Israël, deuxièmement. Et eux aussi, ils sont des multiples de 600 000. Dans le chiffre 600 000, qui est donc le chiffre des Bnei Israël qui sont comptés, le Maharal dit que ce qui est important dans le 600 000, ce n'est pas du tout les zéros, c'est le 6. Parce que le 6, ça indique 6 directions. Si vous avez le nord, sud, est, ouest, et le haut et le bas, ça fait 6 directions. Mais ça, si ces 6 directions, elles s'indiquent, c'est le système de coordonnées pour le monde entier. Donc ça dit quelque chose, ça veut dire c'est le monde entier. Ça forme dans l'espace, on ne peut pas faire plus, quoi. Ça remplit l'espace. Quand vous avez, d'accord, dans toutes les directions, donc ça fait 6 directions. Donc, ça remplit l'espace d'une certaine manière. Quand il y a 4, ça remplit le plan. Et quand il y a 6, ça remplit d'une certaine manière l'espace. Donc, ça forme un tout. Donc, premièrement, ça veut dire que c'est aussi un tout, eux aussi. Pour les Tanaïm en question, bon, les Révraves, ça forme un tout. Donc, c'est peut-être bien un mélange. Mais ce mélange-là, il forme un tout. Alors, bon, on ne sait pas. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Cette idée que le Erev Rav soit plus nombreux que les Bnei Israël, c'est quand même surprenant, quoi. Bon, je ne vais pas rentrer dans. J'avais proposé un truc, mais ce n'est pas le sujet maintenant. Est-ce que, donc, le point que je voulais ajouter, donc, sur la notion de sortie d'Égypte, c'est cette idée qu'il y a deux éléments, deux parties dans la sortie d'Égypte, et que dans la première partie, le Erev Rav n'est pas partie prenante, alors qu'il l'est dans la deuxième partie, et que par conséquent, la première partie peut très bien servir de modèle pour la Géoula Atida, je ne peux pas faire la deuxième partie. Parce que la deuxième partie, elle parle d'une galoute qui va suivre la Géoula. Alors, on va reprendre ce qui était notre sujet, puisque on ne parle pas du galoute en tant que tel, dans la mesure où vous connaissez le sujet, c'est. On parlait du galoute de la parole. D'abord, il faut se rappeler que Mitzrayim, le mot Mitzrayim, il a à voir avec Metzarim. D'abord, il dit l'étroitesse de la chose. Mitzrayim, c'est un pays qui est caractérisé par son étroitesse. C'est une espèce de Chili, quoi, si vous voulez, comme le Chili. C'est que la. C'est la vallée du Nil, quoi. Zéouzé. Donc c'est un place, ça va très bien pour dire quelque chose que c'est une restriction, c'est un étouffement, en quelque sorte. Donc le Zohar va lire, effectivement, c'est la place vraiment. La vraie place pour le galout du dibour, pour le galout de la parole. C'est un moment où une espèce de somnolence généralisée. Tout le monde, que ce soit Paro, que ce soit l'Ebné Israël, même mon cher Rabbeinu, tout le monde refuse de. Enfin, personne ne parle. Ça prend beaucoup de formes différentes. C'est en tout cas quelque chose. Dans ce pays-là, on permet, par exemple, Paro va prendre des mesures pour empêcher les Bnei Israël, disons, de rêver. Vous vous souvenez, on a parlé la semaine dernière de ces fameux rouleaux que les Bnei Israël avaient qui lisaient Shabbat, qui leur permettaient de rêver, parce que dans ces rouleaux, on parlait du fait que, on parlait de la sortie d'Égypte, parlait de la libération. C'est intéressant parce que c'est parler de libération à des esclaves, à des gens qui sont complètement esclaves et qui, à la limite, ça veut rien dire, libération. Mais malgré tout, ces rouleaux les ont familiarisés avec des rêveries autour de la notion de libération. Alors, la guérison de ce problème de la parole, c'est évidemment la Torah. Quand on mérite la Torah, mon cher Rabbeinu, quand il mérite la Torah, alors, il va pouvoir parler. Mais comment est-ce qu'on arrive à mériter la Torah? Alors, eux, tout ce qu'ils ont, c'est ils racontent des histoires. Des histoires qu'il y a dans ces rouleaux. Sans s'en rendre compte, d'une certaine manière. Ils vont s'habituer à quelque chose qui va être absolument fondamental pour l'étude de la Torah. La Mec d'Avar, pour le Nessiv de Volozhin, il parle de ces histoires qu'ils pouvaient se raconter. comme une expérience, une forme, c'est déjà expérimenté sous forme d'histoire, la libération, en fait, la Géoula. Dans la Haggadah, qu'on lit le soir du Seder, on dit Kolamarbel s'appelle Bitsiat Misraim Arezem. Plus on raconte cette sortie d'Égypte, plus on est digne d'éloge, en fait. Alors, le Hamec Davar dit l'élite parmi le peuple, ce sont ceux qui sont en fait qui ont le plus à dire sur la sortie d'Égypte, le plus à raconter sur la sortie d'Égypte. C'est-à-dire, l'aboutissement de ce travail sur la Géoula, même si on va au-delà de tout ce qu'on a dit sur ce qu'on dit toujours sur les Arba Leshonot, sur les quatre verbes qui parlent de la sortie d'Égypte. Finalement, qu'est-ce qu'on dit? On dit, vous vidatem, et vous saurez que je suis Hachem qui vous est sorti de Mitzrayim. C'est la conscience. C'est-à-dire que c'est ça qu'on veut retirer de la sortie d'Égypte. Qu'on soit conscient que c'est Hachem qui nous a sortis d'Égypte. Il y a un veut le dire que c'est Metsarim dans la gorge qui empêche de parler, quoi. Comme une maladie de la gorge, qui fait que c'est trop étroit pour cette Metsarim. Ça que s'agit de C'est contre ça qu'il s'agit de lutter, en fait. Peut-être, ouais, peut-être aussi. Ouais. En fait, ce qui se passe, les chassidim, ils vont lire que les Bnei Israël ne pouvaient pas écouter Moshe Rabbeinu. Donc, ça veut dire qu'ils voulaient bien, ils auraient bien voulu écouter, mais ils ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas assez de souffle. Mais ce vouloir écouter, il va finir par produire quelque chose. Quoi?
Qu'est-ce qu'il y a à voir dessus avec écouter?
Avoir quoi?
Souffle, ils n'avaient pas fait le souffle.
Oui, non, mais ils n'avaient pas de souffle, donc ils ont pas la temps, ils peuvent pas écouter parce qu'ils sont en train de chercher leur souffle. Donc le problème du clan d'Israël, c'est un problème qui se joue d'abord dans la personne de Moshe Rabbeinu. C'est Moshe Rabbeinu qui a un problème pour parler, en fait. C'est lui qui doit aider les Bnei Israël à sortir d'Égypte, donc à vaincre ce problème, mais il faut d'abord le vaincre chez lui-même, en fait. Il faut savoir que toute cette histoire de la sortie d'Égypte, vous avez dit, c'est les fondations du clan d'Israël, mais c'est plus qu'un récit national. C'est quelque chose que il n'y a pas de sujet dans la Torah qui est plus important, même numériquement, et qui sans arrêt, rappelé comme la sortie d'Égypte. Toute la vie du clan d'Israël tourne autour de l'idée de la sortie d'Égypte. C'est comme si un être humain, toute sa vie, elle tournait autour du moment de sa naissance. Tous les jours, on mentionne la sortie d'Égypte. Bon, elle est dans Kriyat Shema, deux fois par jour, elle est mentionnée encore d'autres moments. Cette tension permanente entre le galout et la Géoula, toujours à l'œuvre, tout le temps, c'est toujours à l'œuvre, en clan Israël. En Égypte, enfin disons, quand les Israël sont en Égypte, ils sont soumis à un paro qui ne dit jamais ce qu'on lui demande de dire. On lui demande de dire « Je libère les Bnei Israël » et dit toutes sortes de choses, mais il ne le dit jamais, jusqu'à la fin. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, quand il parle aux Bnei Israël, il leur dit, Shema Ami, écoute mon peuple. Si seulement mon peuple voulait bien m'écouter. Normalement, avec tout ce qu'Hachem a fait pour nous, ça devrait être évident qu'on l'écoute. Il y a ceux qui n'aiment pas Hachem, en quelque sorte, c'est-à-dire les ennemis d'Israël. Hachem dit à Israël, je les détruis complètement. Si vous revenez à moi, je vous détruis. Je les détruis. Vous n'avez pas d'ennemis si vous êtes avec moi. Que ceux qui ne veulent pas d'Hachem, en quelque sorte, c'est ceux qui haïssent Hachem, ben ils ne veulent pas non plus du peuple d'Hachem. Hachem ne veut pas seulement que les Bnei Israël écoutent, il veut aussi qu'ils ouvrent leur bouche. Ouvrez vos bouches et je vais les remplir. Ça veut dire, Rachid dit, demandez-moi ce que vous voulez. C'est-à-dire, Rachid a transformé l'image de la bouche ouverte, en fait, Il a transformé ça en une demande. Ils ont articulé par la bouche, en fait. Demandez-moi ce que vous voulez. J'aime mieux que on mette en mots une certaine fin, un désir. George Borrow, en fait, il nous nourrit, nous a nourris avec le meilleur blé possible. Et Vasuk dit, il nous a rassasiés même avec du miel qui est issu de la pierre, en fait, du rocher. Le miel et le rocher, c'est le contraire, c'est la douceur en quelque sorte et le dur, le fluide et le rigide. Alors, la parole, elle commence comment? La parole, elle commence, c'est Hachem qui parle. Et on va prendre ce qui est intéressant ce qui nous intéresse, c'est au début de Parshat Bo, c'est Hachem qui parle à Moshe Rabbeinu avant la huitième plaie. La huitième plaie, c'est celle des sauterelles, comme vous savez. Alors, on ne comprend pas très bien ce qu'Hachem lui dit. Hachem lui dit, va chez Paro, parce que j'ai endurci son cœur, et le cœur de ses serviteurs, de toute la cour en quelque sorte, de sorte que je puisse manifester mes signes parmi eux, parmi les Égyptiens. Et que tu puisses raconter aux oreilles de ton fils, de ton petit-fils, comme je me suis moqué des Égyptiens, et comme j'ai manifesté mes signes, j'ai marqué, en quelque sorte, mes signes parmi eux, de telle sorte que tu saches que je suis Hachem. C'est un passouk extrêmement difficile à comprendre, en fait. A priori, si Moshe doit aller chez Paro, c'est comme toujours pour l'avertir. Rachid dit c'est pour l'avertir. Pour l'avertir que, ben, puisqu'il continue à pas faire ce qu'on lui demande de faire, et ben, il va avoir les sauterelles. C'est la seule fois où c'est Hachem lui-même qui annonce que lui, Hachem, il a endurci le cœur de Paro. Jusqu'à présent, c'était toujours dit à la troisième personne. Mais ici, pour la première fois, c'est dit à la première personne. Au tout début, quand Hachem a dit à Moshe Rabbeinu qu'il devait aller parler avec Paro, Hachem avait dit, et j'endurcirai moi le cœur de Paro. Donc au tout début des Makot, il l'a dit, et il le redit maintenant à la huitième. Ça vient pour aider à comprendre une suite d'événements qui n'est pas tellement évidente. Parce que, en fait, il faut expliquer pourquoi Moshe Rabbeinu doit continuer d'avertir Paro alors qu'on sait très bien, ça fait 7 plaies qui se fichent de nous. Non, ça fait 7 fois qu'il dit oui, enlevez la plaie, je céderai, et puis après il ne cède jamais. Donc, à quoi on joue, effectivement? C'est très bien qu'il n'écoutera pas plus. Pourtant, il a déjà dit, il vient de dire avant ça, il vient de dire que Akadosh Baruch Hou est le tzaddik, et moi et mon peuple, on est les fautifs, etc. Et tout ça. C'est jusqu'à ce que la plaie s'arrête. Après, dès que la plaie s'arrête, il retrouve son cœur est toujours de nouveau endurci. Donc, on peut penser que Moshe Rabbeinu se demande, mais qu'est-ce que je fais, quoi? À quoi je sers, là? Or, on voit très bien que, semble-t-il, même des souffrances quasiment insoutenables infligées à Paro n'entraînent pas du tout que Paro va céder. Donc il faut qu'Hachem explique à Moshe Rabbeinu pourquoi il l'envoie. On est dans cette espèce de silence de Paro par rapport à ce qu'on veut qu'il dise. Et on va aller lui parler à quelqu'un qui ne veut pas écouter, dont on sait qu'il n'écoutera pas. C'est complètement absurde. Ça veut dire, il y a quelque chose avec Paro, qu'on ne peut pas expliquer autrement qu'en disant que c'est Hachem qui est en train de manipuler Paro. Donc Hachem a l'air de dire à Moshe Rabbeinu, on va continuer, on va continuer. Et d'ailleurs, il dit, je vais continuer de. Hachem, il appelle ça jouer, se moquer, jouer avec Paro. Le seul qui arrange un peu les choses, c'est Sforno. Sforno, il dit que. Qu'est-ce que ça veut dire qu'Hachem a endurci le cœur de Paro? C'est qu'il lui a donné juste de quoi supporter la douleur, pour qu'il ne cède pas à cause de la douleur. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a des gens dans l'entourage de Paro qui vont être influencés par ce que Moshe va lui dire. Ils vont céder. Il y a des gens qui vont céder. Il y avait déjà eu avant les magiciens qui avaient dit à Paro, mais tu vois pas que c'est le doigt de Dieu, tu vois pas que. Et là maintenant, ils lui disent, tu vois pas que l'Égypte est perdue, pourquoi tu t'entêtes?
Oui.
Ce que dit de oui, non, ouais. Ce que dit le Sforno, c'est que les Égyptiens aussi sont concernés par cette histoire. C'est pas seulement Paro. D'accord? Puisqu'on pense qu'éventuellement des Égyptiens vont changer d'avis. Ça veut dire qu'on considère que les sujets de Paro sont susceptibles de changer d'avis, même si lui, Paro, ne change pas d'avis. Veut dire qu'il Sforno, il compte sur une certaine capacité d'indépendance des sujets, des sujets de Paro par rapport à Paro. En fait, les Bnei Israël, quand ils vont attaquer plus tard, ils vont attaquer leur, ils vont attaquer Moshe et Aaron sur le fait que bon, ça n'a pas marché, c'est pas plus tard, c'est avant. Et Hachem, quelque chose. Vous punissent parce que vous êtes intervenu chez Paro et ça a seulement aggravé la situation. Et du coup, les Bnei Israël, ils ne veulent pas écouter Moshe. Dans l'Yerushalmi, il ramène une lecture, la phrase qui dit que les Bnei Israël, vous avez vu de vos propres yeux, alors la Gemara, elle dit, celui qui prend ce qu'il a appris, et il l'intériorise, il va pas rapidement l'oublier. Voir pour eux, c'est marqué vos propres yeux. Ouais. Donc ça veut dire que c'est un mot pour dire qu'on voit clairement les choses. Voir, c'est voir clairement les choses. Mais voir clairement les choses de l'intérieur, en fait. Donc en fait, voir, comme on va dire par la suite, pour voir les voies, c'est pas une question de, c'est une question de. D'ailleurs, quand on dit à quelqu'un tu vois ou tu vois ce que je veux dire, on lui demande, on parle pas du tout de la vue, on parle de la compréhension, de l'intériorisation. Donc en fait, ce qui se passe quand on va dire aux Bnei Israël, vous avez vu, ils sont censés apprendre à voir en quelque sorte, donc à fois apprendre à intérioriser les choses, Et d'un autre côté, avec les yeux, si on peut parler comme ça, il y a une façon de, c'est une façon de regarder, une façon d'observer les choses qui veut, si vous voulez, qui va donner un autre ton, si vous voulez, à ce qui est raconté. Il y a eu des miracles, il y a eu des signes, comme Hachem dit, je vais mettre mes signes, etc. Mais quand la Torah demande au Bnei Israël, elle dit à Moshe, pour lui-même et pour les Bnei Israël, tu vas le raconter à tes enfants, à tes petits-enfants, etc. Il va faire un récit. La question, ce qui se pose, c'est chacun va raconter le soir du Seder, chacun va raconter l'histoire avec les questions, les quatre questions des enfants, le père qui répond, etc. Ça veut dire que il n'y aura pas une réponse absolue à toutes les questions. L'enfant, il va poser des questions auxquelles le père ne va pas répondre. Mais qu'est-ce que ça veut dire que il pose des questions, on lui demande de poser des questions et puis ensuite, on ne lui répond pas? Quand Hachem dit, c'est parce que j'ai endurci le cœur de Paro, alors le Midrash, il entend, ça veut dire qu'Hachem parle ici au singulier. Regardez le Midrash. Le Midrash dit comme ça. C'est Rabbi Yochanan qui parle et il dit, ça donne un prétexte aux hérétiques pour ouvrir leur bouche, en fait. Ils peuvent dire, il était impossible à Paro de faire tchouva, puisqu'Hachem a endurci son cœur. C'est Rabbi Yochanan. Et donc, Rish Lakish, ils vont toujours ensemble, Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Rish Lakish lui a répondu que la bouche des hérétiques soit scellée, fermée complètement. Akadosh Baruch Hu, il donne des prétextes pour se moquer à ceux qui sont des moqueurs. Hachem avertit quelqu'un une première fois, une deuxième et une troisième. S'il ne change toujours pas sa façon de faire, beaucoup bloque son cœur complètement et l'empêche de faire tchouva pour lui faire payer, comme si on disait, bon, alors maintenant on arrête le compte et tu payes pour les comptes jusqu'à l'heure, jusqu'à maintenant. Paye. Donc, en vérité, Hachem a envoyé à Paro cinq avertissements. Il s'en est pas occupé du tout. Alors, Hachem lui a dit, toi, tu as endurci ton cœur. Alors maintenant, je vais ajouter, Midrash dit, je vais ajouter de l'impureté à ton impureté, de la Touma à ta Touma. Si toi, tu cho choisis la Touma, alors, je vais t'en mettre une bonne couche. Rabbi Yochanan, visiblement, dans ce Midrash, il est un peu dérangé par le fait que quand Hachem dit j'ai endurci son cœur, il donne une possibilité aux hérétiques de dire, de parler, quoi. C'est facile. C'est quoi les hérétiques, ils vont dire, qu'est-ce que ça veut dire? Il lui a fermé la porte de la tchouba. Et donc, ce sera facile pour les hérétiques de parler, puisque la Torah elle-même leur a dit ce qu'il fallait dire. C'est du point de vue de. Si on regarde sur Hachem, c'est il fait une injustice, là. Il empêche quelqu'un de faire tchouva. Ça veut dire que tout le récit de ces plaies-là, ça devient le récit d'un abus, d'une vengeance d'Hachem contre Paro, en fait. Il est coincé par Hachem qui est plus fort que lui, mais qui fait quelque chose d'injuste, ce qu'ils vont dire, les hérétiques. Ça, c'est la position de Rabbi Yochanan. Quelque part, il est dérangé parce que cette espèce d'aveu d'Hachem, c'est insupportable. Ça permet aux hérétiques de parler. Alors, Reish Lakish y répond. Il dit, voilà, Issatem pihem. On va fermer leur bouche. Ça veut dire, Reish Lakish, il doit répondre à Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il a soulevé un problème, et Reish Lakish doit répondre à ce problème. Il va dire que Hachem ferme la porte à la tchouva. C'est quelque chose qui s'entend. Si le fait de se moquer en quelque sorte des avertissements est devenu une seconde nature pour la personne. Après cinq fois où il a refusé obstinément. Paro, il n'a pas de raison de se plaindre de ce qu'Hachem a ajouté de la Touma à sa Touma. En quelque sorte, Reish Lakish, il a mis un contre-discours contre le discours de morale de Rabbi Yochanan. On pourrait dire que, en vérité un peu plus loin, on pourrait aller dire que Rabbi Yochanan, il est dérangé par le fait que Hachem ouvre, en quelque sorte, avec ses propres mots. Il ouvre la nécessité de produire un discours contre le sien, en fait. Rabbi Shimon Bar Ben Lakish. Il dit, en fait, regarde la critique, critique morale, en fait, il la prend en compte, et du coup, il va enrichir le récit, en fait. À cause de cette attaque des hérétiques, qui est rendue possible par le fait qu'Hachem a avoué en quelque sorte que c'est lui qui avait qui a endurci le cœur de Paro. Alors, en fait, il faut intégrer toute cette voie, intégrer ça dans le récit du Midrash, parce que Rabbi Shimon ben Lakish y pense que finalement, on aura ainsi, on n'a pas un discours qui répond à un discours. Les hérétiques qui disent quelque chose et on leur répond. Et Reish Lakish, il va intégrer de telle sorte que on n'a qu'un seul discours. Il a assimilé, intégré, je ne sais pas, on dit métabolisé, je ne sais pas, le discours rival. Mais est-ce qu'il a vraiment neutralisé l'argument de Rabbi Yochanan? On peut très bien dire que ce que la Torah nous dit, compris les paroles qui sont dites comme étant des paroles d'Hachem, on peut le lire de façon quand même encore plus subversive, si on peut parler comme ça. Dire non, pas du tout. Le problème qui est posé par le fait qu'Hachem a endurci le cœur de Paro, il a été résolu par Rabbi Shimon. Mais maintenant, le cœur et la bouche de Paro sont fermés. Ça veut dire que tout est bien arrangé par Rabbi Reish Lakish. Mais néanmoins, il y a quand même quelque chose qu'on peut dire. On peut dire que il y a toujours la possibilité de questionner, re-questionner sans fin, dans la mesure où la réponse, elle ne fait pas taire complètement la question. Ça veut dire que Rabbi Yohanan, il va devoir produire toutes sortes d'autres possibilités pour renforcer, renforcer sa question, parce que une réponse partielle a un peu répondu déjà à la question, donc il faut qu'il va falloir qu'il arrange un peu sa question pour qu'elle reste bien. Dans le Midrash, les implications de ce qui a été dit par Hachem, bon, c'est une provocation. C'est-à-dire que malgré la réponse de Reish Lakish, l'endurcissement de Paro, du cœur de Paro par Hachem, ça reste problématique. Parce que on peut toujours continuer de questionner. Veut dire que, en d'autres termes, le texte de la Torah, il permet de tenir un discours, ouvrir la bouche, ça veut dire de tenir un discours. Pour les hérétiques, donc toujours par les hérétiques, parce qu'il n'y a pas de réponse finale qui pourrait les faire taire complètement. Donc, quelque part, il y a un problème avec la présentation que la Torah fait des choses. Parce que quelque part, les hérétiques, ils peuvent toujours venir et dire, ah, c'est comme ça, et c'est comme ça, c'est ce qu'on voit tout le temps. Ouais, il y a toujours des hérétiques qui viennent et qui prennent, ils disent, oui, mais c'est comme ça, alors ça, c'est pas possible, ou alors c'est injuste, etc. La Torah elle-même, on a presque l'impression que parce qu'elle est, parce qu'elle, je sais pas, est-ce que c'est parce que elle est par définition finie, c'est un texte fini, donc on peut interroger indéfiniment. Sans arrêt, il y a toujours un angle sous lequel on peut poser des questions. Et c'est ça le problème, effectivement, de l'exil de la parole. Ça veut dire, quand tu ne permets pas de parler, quand on empêche de parler, mais d'un autre côté, il y a aussi, si on parle, Hachem parle, il parle, Hachem, il parle à Moshe Rabbeinu, il dit quelque chose à Moshe Rabbeinu. C'est devenu un texte de Torah, donc c'est accessible aux hérétiques. Les hérétiques vont faire leur beurre avec ça. C'est un grand problème. Étant donné que la Torah existe sous cette forme-là, elle donne prise aux hérétiques. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Il faudrait se taire. Si on ne dit rien du tout, les hérétiques, ils ne peuvent pas parler. Mais là, on est presque pris au piège. Si tu veux parler, alors. C'est pris au piège, là. Tout à coup, on va pouvoir dire, ouais, mais ça, c'est pas juste, ou ça, c'est comme ci, c'est comme ça. Pardon? Oui, mais le problème, c'est qu'on voudrait bien que les hérétiques ne gagnent pas la partie, que ce soit pas eux qui gagnent. Donc, on est obligé de répondre. Parce que si tu réponds pas, alors ils ont gagné parce que toi, tu es échec et mat. Donc, tu dois répondre. Mais quand tu réponds, tu obliges l'autre, enfin, tu permets à l'autre, tu obliges l'autre à être un peu plus pointu dans sa question. Et ça pose d'autres problèmes. Il pose d'autres problèmes à chaque fois, c'est sans fin. Mais c'est le propre de la Torah, en fait.
Encore, c'est comme ça comme l'important.
Parlons-le.
Il y a d'autres endroits où c'est comme ça comme l'important.
Oui, il y a plein d'endroits où, bon, mais là-bas, si on veut, c'est dit de façon ambiguë. La Torah aurait pu dire, c'est la valeur d'un œil pour la valeur d'un. Elle aurait ajouté que c'est la valeur monétaire d'un œil, on n'aurait plus de question. C'est la formulation qui est un peu, qui compte sur l'intelligence ou sur le fait que l'herméneutique nous permet de dire que. On parle certainement dans cette paracha, c'est toute une paracha qui ne parle que d'argent, donc elle parle d'argent. C'est comme ça que la Gemara, elle l'explique. Mais c'est vrai que la Torah aurait pu parler plus, en fait, et empêcher cette lecture de dire que c'est la loi du talion, alors que ce n'est pas la loi du talion, pour le talion, c'est une loi romaine, ce n'est pas la nôtre.
Il faut la rentrée du temps qui a d'abord l'été.
Oui, c'est possible, mais justement, c'est quand même un problème.
C'est pas pour justement faire une présentation nous, on fasse connaître la voix.
Qu'est-ce que c'est?
Parce que le port d'achat ne peut pas se faire connaître. Donc c'est pas que nous, on le représente et qu'on fasse connaître. Qui est cette utilisation?
Oui, mais tu dois répondre. L'hérétique qui va pouvoir poser une question et tu vas répondre. Tu vas lui dire, c'est comme ça qu'il faut le dire. Puis il te dira, oui, mais dans ce cas-là, pourquoi tu ne l'as pas dit?
C'est quand même comme ça qu'il y a plein de responsables qui ont été développés par ma famille, qui font qu'aujourd'hui, il y a eu plein de remplacés, plein
Ouais,
de choses.
ouais.
C'est la seule justement, c'est dans l'imagination, la personne de l'État qui a été plein de rouleaux et qui ont développé une imagination de ce qu'est la société, je me demande, je me demande si cette prémisse là pour moi est fondamentale à la démarche qu'on doit avoir. Est-ce qu'on arrive encore aujourd'hui on arrive encore aujourd'hui de plus que la vie, que le génie,
Oui, on peut encore.
on peut encore.
Oui. par exemple, dans les Shevat Teshuvot, Rabbanim qui sont auxquels on pose des questions des fois qui sont toutes nouvelles, etc. Il faut des trésors d'imagination et de connaissances, en fait, pour dire, oui, mais là, il y a un Tosfot qui parle comme ça, et du coup, on peut. Ils font ça, c'est des fois impressionnant. Oui, ils sont allés chercher. Ils sont allés chercher des références qui n'ont rien à voir avec le sujet, a priori. Mais il y a un mot qui est dit là-bas, et ce mot-là, il permet de résoudre le problème. Ça continue.
Pour pas qu'il sait la cause de la douleur.
Oui.
Ça veut dire à quel niveau il sait simplement pour reconnaître le caractère de beaucoup
Voilà.
et pourquoi. Et de ce qu'il a est-ce qu'à la fin, est-ce qu'à la fin, par revoir, c'est marqué que par revoir, il va céder, parce qu'il reconnaît le caractère, il va par un peu de douleur, il va le mourir.
Non, en fait, c'est pas marqué qu'il cède pas parce que finalement il cède aussi parce que ça fait trop mal. Pourquoi il les chasse? Parce qu'il y a trop de morts. Donc voilà, il y a des morts, il y a trop de morts. Partez. À cause de vous, il y a de la mort. Donc c'est bien à cause de la mort qu'il les chasse. C'est-à-dire, on n'est pas arrivé à ce que Paro reconnaisse véritablement Hachem comme il reconnaît. Bon, ça va, tu es plus fort que moi, tu as gagné, mais j'en pense pas moins, quoi.
Il le reconnaît, mais il ne l'aime pas. Il est obligé de reconnaître.
Il est obligé de reconnaître qu'il est plus fort que lui. Mais peut-être que c'est uniquement ça qu'Hachem veut qu'il soit obligé de reconnaître. Parce que on avait dit au Shiur de Chumash que Hachem lui dit, mais jusqu'à quand est-ce que tu vas refuser de t'humilier devant moi? Vous vous souvenez? On a dit ça. Et donc Hachem ne veut pas simplement que tu t'écrases. Il faut vraiment que tu t'humilies devant moi.
C'est-à-dire que la condition du peuple d'Israël qui reconnaît, on est Eved Hachem. Je pose une question là, le Eved en s'introduisant, en se mélangeant comme ça au peuple d'Israël, le peuple d'Israël n'est plus.
Le problème, est-ce qu'ils se sont vraiment mélangés? C'est l'histoire. Le mot mélange, je vais répéter, le mot mélange ne concerne pas un mélange avec les Bnei Israël. C'est eux-mêmes qui sont un vrai mélange. C'est le melting, c'est-à-dire, c'est comme la Légion étrangère. Dans la Légion étrangère, vous avez des gens de tout bord, mais ils ne sont pas mélangés avec le peuple. La Légion étrangère, c'est une armée pour soi. Elle n'est pas.
Parce que armée, c'est l'encadrement. Mais là, ils n'ont pas été encadrés, le terrain pas. Ils sont sortis avec, et ça c'est.
Oui, mais justement, mais on les a. D'après, c'est pas très clair, mais il y a des endroits où on voit qu'on les a pas laissés s'installer au milieu des Bnei Israël. Ils étaient à côté. Mais je sais pas exactement comment c'est possible. Je me dis, on comprend pas comment ils ont franchi la mer, par exemple, puisqu'il y avait aucun canal pour eux. Il y avait 12 canaux, il y avait pas un canal pour les Rebraves.
C'est encore le mystère du RFA. C'était déjà un mystère. Mais sans seulement quand qu'est-ce qui est devenu ce RFA? Ils ne sont pas arrêtés. C'est pas une appel à la fin sur le
Bon,
corps.
on ne sait pas. Est-ce qu'ils ont, on sait, ils ont disparu à un moment donné, on ne parle plus d'eux. Alors, est-ce qu'ils sont simplement morts? Est-ce
Oui, c'est
que.
des très nombreux, donc très nombreux.
Oh, ça dépend. Non, le très nombreux, ça, c'est les Tanaïm qui disent, mais c'est. Personne. C'est les Tanaïm qui le disent. Mais personne n'explique. Je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire? Comment le Klal Israël, il a pu circuler avec au moins deux fois plus que lui de gens, c'est quoi? On n'en parle jamais, on ne parle pas du tout. De quoi? Qu'est-ce qu'ils mangeaient, ces gens-là? Ils ont quoi? Ils ont mangé les troupeaux des Bnei Israël, ils sont sortis avec les troupeaux à eux, il n'y avait plus de troupeaux, ils sont tous morts à ce moment-là en Égypte.
Est-ce qu'on pense qu'ils ont fait comme
Étaient
ça?
végétariens et qu'est-ce qu'il y a? Ils avaient des poireaux. C'est le désert.
Est-ce qu'ils ont fait Teshuvah ou pas? C'est le don de la Torah.
Teshuva, je ne sais pas.
Est-ce que...
Donc,
Oui.
personne ne dit ça. Personne ne dit que personne ne parle du tout de leur façon à eux de recevoir la Torah le cas échéant. Où ils étaient pendant Matan Torah, on n'en sait rien.
Mais ces réfraves, ils étaient plus méritants que les 80% de peuple juif qui est mort en Égypte pour sortir.
Non, ils étaient plus méritants que ceux qui sont sortis d'Égypte. Mais justement, il y a je demandais si c'était le 4/5e.
Bon, ça, c'est moi, c'est ce que j'ai dit moi, mais il ne faut pas écouter. Non, j'ai pas de source, je veux dire, je.
Ah, ça explique très bien les choses.
Pardon?
Ça explique très bien les choses.
Non, ça explique très bien, mais c'est pas. Ça explique pas mal de choses. Ça pose pas, il n'y a pas de problème. Ils se sont probablement assimilés. Ils ont fait Tshuva, etc. Tout ça, c'est possible. On ne peut pas, a priori, penser du Rebrav si le Rebrav, c'est la Légion étrangère. Je veux dire.
S'assimiler justement chez nous, s'assimiler, ça n'a pas de sens. Ça perturbe l'identité juive,
Mais non,
c'est
mais
ça.
eux, ils ne sont pas assis. Si c'est les Rebraves, ils n'étaient pas dedans. Si on n'en parle pas, c'est que peut-être petit à petit, ils se sont ralliés. Et à ce moment-là, ça a simplement augmenté le peuple juif, quoi. Mais ça l'a augmenté d'après la Chita des trois, celui qui dit qu'il y a 6 fois. Donc ça veut dire. Ils étaient 6 fois, donc plus une fois, donc il y a 7 fois, c'est 21 millions au lieu de. Non, 7 fois 6, 42, non? Ouais, c'est ça. 7 fois 6, 42, c'est déjà pas mal.
Il y a
Ils n'étaient pas plus méritants. Eux, ils sont sortis, ils ont voulu sortir. Mais ils n'ont pas voulu sortir pour servir Hachem. Ils ont voulu sortir parce qu'ils voulaient sortir parce que la porte était ouverte et qu'ils avaient envie de partir.
Je sais que c'est un